Vous écoutez
RMC.
Vendredi 12 juin.
L'info sur RMC.
Seconde.
À la seconde près, il est 6h. Céline Kallmann est là. Les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Fracture entre Christophe Castaner et les policiers. Rassemblement hier soir partout en France. Menottes jetées à terre. Les syndicats appellent à de nouvelles actions aujourd'hui. La police innocentée dans la mort de Zineb Redouane, octogénaire tué par un tir de gaz lacrymogène en décembre 2018 à Marseille. Un tir accidentel, selon le rapport. Des pluies torrentielles hier en Corse, plus de 200 personnes secourues par les pompiers. L'eau est montée à une vitesse record dans certaines rues d'Ajaccio. Il est 6h, bienvenue à tous sur RMC. La confiance a été rompue et on se demande si Christophe Castaner va réussir à inverser la tendance. Le ministre de l'Intérieur a commencé à recevoir les syndicats de police hier pour calmer leur colère après ses annonces sur la fin, notamment de la technique dite de l'étranglement. Ces mots aussi sur la tolérance zéro dans les rangs de la police sont restés en travers de la gorge des fonctionnaires. Hier soir, action symbolique et inédite un peu partout en France. Les policiers ont jeté au sol leurs menottes. Benjamin Smadja.
Hier soir à Nice, alignés devant leur véhicule aux gyrophares allumés, des policières et policiers en uniforme jettent symboliquement leurs outils de travail au sol. Menottes, matraques, boucliers, casques et gilets pare-balles sont à leurs pieds. Un peu plus tôt hier, des rassemblements se sont aussi tenus dans plusieurs villes comme à Saint-Étienne, Marseille, Nice, Bordeaux, Bobigny, Toulouse ou encore Lille.
On est ici présent, menottes au sol, parce qu'on s'est fait insulter. Parce qu'on se fait insulter par notre ministre de l'Intérieur. Parce que la police aujourd'hui, elle est suspecte de tout.
Des manifestations rares qui font suite aux déclarations et aux décisions du ministre de l'Intérieur. Suspension d'un agent en cas de suspicion avérée de racisme, interdiction de recourir à la clé d'étranglement. Michel Laveau est le porte-parole de la police nationale.
Je vois dans ces images la marque et les témoignages d'amertume, de tristesse, de lassitude. Nous, policiers, nous avons le sentiment d'être victimes d'amalgame. Or, la police nationale n'est pas raciste et la police nationale n'est pas violente.
La mobilisation se poursuit aujourd'hui. Le syndicat Alliance promet une action forte et symbolique.
Et Christophe Castaner va continuer de recevoir les syndicats aujourd'hui, ceux des officiers et des commissaires de police. La police innocentée, dans un rapport d'experts, dans la mort de Zineb Redouane le 2 décembre 2018, cette femme de 80 ans mourait à l'hôpital la veille lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Marseille. Elle avait été touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait les fenêtres de son appartement. Benoît Ballet, le rapport d'expertise conclut donc à un accident.
Oui, c'est écrit noir sur blanc dans ce document de 73 pages. La grenade a été utilisée selon les règles. Le projectile atteint la victime de manière totalement accidentelle. Le tir avait une trajectoire de bas en haut et a été déclenché à 37 mètres de distance. Selon les experts, il ne peut pas s'agir d'un tir de visée, d'un tir intentionnel. Compte tenu de la distance, de l'obscurité et des dégagements de gaz lacrymogène dans la rue, rien ne permet d'affirmer que Zineb Redouane a pu être aperçu par le policier au moment où il pressait la gâchette. L'avocat de la famille de l'octogénaire juge ses conclusions scandaleuses. Selon lui, le tir était tendu et non pas en cloche et le policier ne pouvait pas ignorer qu'il pouvait y avoir des habitants dans l'immeuble. L'avocat espère que les magistrats en charge de l'enquête ne tiendront pas compte de cette expertise et qu'ils en demanderont une nouvelle.
Merci Benoît. Gérald Darmanin à nouveau dans le viseur de la justice. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des investigations concernant une accusation de viol visant le ministre de l'Action et des Comptes publics, des faits qu'il aurait commis en 2009 quand il était chargé de mission à l'UMP. Pas de blessés, mais la panique hier après-midi à Ajaccio en Corse. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville à la mi-journée. En quelques minutes, certaines rues se sont transformées en torrents. Près de 200 personnes ont dû être mises en sécurité. Grosse frayeur aussi pour des automobilistes pris au piège dans leur voiture. Martin Bourdin.
Des rues transformées en torrents d'eau boueuse, des voitures à la dérive, des habitants sous le choc.
On a vu dévaler tous les conteneurs poubelles. Moi, je suis là depuis vraiment les années 80 et je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des inondations, mais comme ça, jamais.
Selon la préfecture, 80 personnes ont été prises au piège, bloquées dans leur voiture, secourues par les pompiers. Dominique, par exemple, s'est fait surprendre par la violence des averses.
Je me suis retrouvée bloquée dans un torrent de boue. Hein. Donc, ne plus pouvoir avancer, ne plus pouvoir reculer. Et l'eau qui remontait par le plancher de ma voiture. Donc là, j'ai paniqué. Hein. Ça a duré, je sais pas, peut-être 10 minutes, mais en me disant, c'est bon, là, je me noie, la voiture va partir, je me noie.
Finalement secourue, elle a ensuite vu sa voiture être emportée par les eaux ce matin. Seuls des dégâts matériels sont à signaler. Ça aurait pu être bien pire, reconnaît le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli.
L'équivalent de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de pluie qui se sont déversées sur la ville avec des dégâts notamment dans les quartiers est de la ville. où les eaux stagnent. C'était pas prévu, nous n'étions pas dans une vigilance.
Des opérations de nettoyage et de pompage se sont poursuivies toute la nuit. La ville doit demander dès ce matin la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Et ce matin, on l'a vu avec Géraldine Demory, 9 départements sont en vigilance orange. Finistère, Côte d'Armor pour forte pluie, violents orages attendus sur le Languedoc et le Massif central, vigilance orange sur l'Aveyron, le Gard, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l'Ardèche. Attention à la grêle. Si vous avez droit au ticket restaurant dans votre entreprise, eh bien vous pouvez désormais dépenser 38 euros au lieu des 19 jusqu'à présent. La mesure a été mise en place pour aider à la reprise. Mais ce que souhaitent désormais les restaurateurs en zone orange, eh bien, c'est une ouverture totale de leur établissement avant le 22 juin, date de la troisième phase de déconfinement. Vincent Der, chef de cuisine au bistrot Augustin dans le 14e arrondissement de Paris.
On peut ouvrir avant le 22, là c'est une bouffée d'oxygène à tous les niveaux. J'ai plein de collègues qui n'ont pas pu ouvrir, qui n'ont pas la chance d'avoir les terrasses. Et je pense souvent, vous savez, quand vous avez le personnel, quand vous avez la clientèle même, la clientèle n'a plus l'habitude de te sortir, est-ce qu'elle va revenir? Déjà, ça nous a fait plaisir qu'on réouvre les terrasses. Mais voilà, alors il fait beau, ça va, il fait pas beau, on a peur. C'est pas évident parce que l'autre jour, on a pris des grelons, alors qu'est-ce qu'on fait? On vend, on vend pas? Non, c'est quand même, c'est assez bizarre. Hein.
Et Conseil de défense ce matin autour d'Emmanuel Macron, plusieurs mesures d'assouplissement justement pourraient être annoncées. Prise de parole du chef de l'État dimanche à 20h et vous pourrez l'écouter sur RMC en direct. Le choix étonnant de PSA, le constructeur a décidé de renforcer ses usines en France avec des salariés venus de Pologne. Les intérimaires restent au chômage partiel, on y reviendra en détail juste après ce journal. 27 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Le Brésil a franchi le seuil des 40 000 morts et des 800 000 cas confirmés. Les centres commerciaux ont ouvert à Rio de Janeiro et Sao Paulo en dépit de la forte progression de la pandémie. Aux États-Unis, les experts craignent 200 000 décès dans le pays d'ici le mois de septembre. C'était d'ailleurs les chiffres annoncés par Donald Trump. Le nombre de cas a dépassé les 2 millions après l'allègement des mesures de confinement. Et puis, autre conséquence très préoccupante de cette crise dans le monde, des millions d'enfants supplémentaires risquent de devoir travailler. C'est ce que fait savoir l'ONU ce matin. C'est un geste que nous sommes très nombreux à avoir proscrit pendant cette crise, la bise. Mais visiblement, eh bien, les bonnes vieilles habitudes et traditions sont de retour, plutôt timidement. Reportage de Florian Chevalet pour RMC.
Aujourd'hui, lorsque Juliette retrouve ses amis pour un pique-nique, au moment de se saluer, il y a encore un peu d'hésitation.
On ne sait pas quoi faire, bonjour, on ne sait pas. Donc forcément, on a le réflexe.
Le réflexe de se faire la bise, bien sûr, mais attention, pas à n'importe qui.
Juste mes amis, pas à une connaissance que je viens de rencontrer, en soirée par exemple.
Quelques mètres plus loin, lorsque l'on demande à Julie, entourée de ses enfants et de ses petits-neveux, si elle refait la bise aux gens...
Non.
La réponse est d'abord assez claire et puis finalement...
Bon, des fois oui, aux petits, à mes neveux et à mes nièces, mais c'est tout.
Pour Pierre-José, en revanche, la réponse est claire et définitive, la bise, c'est non.
On a le temps de faire la bise, au contraire, ça va nourrir l'envie, on fera des grosses bises quand les choses seront plus tranquilles.
Un discours porté également par Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. La bise constitue un risque élevé de contamination, le message reste inchangé, on garde les règles de distanciation.
Ces règles d'hygiène, elles vont peut-être s'amender, mais elles vont s'amender par étapes. Le plus dur, c'était d'apprendre ces mesures une fois qu'elles sont entrées dans les mœurs. C'est pas très compliqué de les garder. L'enjeu, c'est qu'on puisse passer des vacances à peu près normales. Et donc pour ça, il faut être de bons élèves aujourd'hui.
L'infectiologue a l'intime conviction que l'on pourra se refaire la bise à Noël.
Je vous fais pas la bise, Jean-Jacques,
non.
7h.
Hein non, pour l'instant, pas de bise.
Le cœur y est, comme on dit.
Oui, je regrette, hein. Je regrette, mais bon.
C'est pas comme si on se la faisait tous les matins avant le coronavirus.
Il vient casser l'ambiance.
On peut lancer le mythe. Oui, c'est vrai qu'on s'embrassait tous allègrement pendant des heures avant la crise. Et puis aujourd'hui, on est obligé de faire attention.
Bon, Charlemagne est là. Bonjour. Mathieu aussi.
Bonjour à tous.
Évidemment,
je crois que j'ai jamais touché Charlemagne.
C'est vrai, vous n'avez jamais touché Charlemagne.
Jamais, ça m'est jamais arrivé.
Il n'est jamais
touché. Ça doit être une émotion.
Il ne faut pas toucher les autres, c'est déconseillé.
Ouais.
Ça marque
oui,
à vie.
Oui, ça marque à vie.
Il paraît. Ouais.
Bon, allez, beaucoup de sujets ce matin. Nous allons reparler de la police, évidemment. Si vous êtes policier, gendarme, allez-y. Vous sentez mal en ce moment, mal-être. Dites-moi, 3216rmc.fr, allez-y. Témoignez ce matin sur RMC. Puis il y a d'autres sujets qui vous font réagir. Et évidemment... par exemple, ce qui se passe chez PSA, Ordin, près de Valenciennes. On va beaucoup parler de l'intérim ce matin et je recevrai le patron d'Adeco à 8h10, Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État à l'économie aussi, sera interrogé tout à l'heure sur l'intérim, les intérimaires qui sont les premières victimes de cette crise économique, eh bien, chez PSA Order, on n'a pas ces soucis, puisque d'abord, l'usine a pratiquement retrouvé sa cadence d'avant confinement. Heureusement, parce que l'industrie française redémarre timidement moins vite que les Allemands, par exemple. Pour que ce soit le cas, la direction de PSA, pour une relance forte, prévoit de compléter l'équipe de nuit qui lui manquait depuis la reprise. Sauf que, plutôt que de faire appel à des intérimaires français, quelques 500 intérimaires, comme c'est le cas en temps habituel, elle va faire venir, écoutez bien, 400 salariés polonais et une soixantaine d'espagnols. La décision interpelle les salariés et les syndicats de l'entreprise, elle écœure les intérimaires habituels, qui sont, semble-t-il, les premières victimes de l'après-confinement, je vous en parlais, c'est pour ça que ce matin, si vous êtes intérimaire, racontez-nous, dites-nous. Lionel Top et Pauline Delevoye ont rencontré Dominique, l'un de ces intérimaires dans cette usine PSA. Ça d'ordre.
Dégoûté, oui. Énervé, oui.
De la frustration et de la colère, Dominique est intérimaire depuis 3 ans pour PSA. Jusqu'au 17 mars, il était affecté à l'équipe de nuit, celle justement pour laquelle des salariés polonais ont été appelés en renfort.
Là, quand on voit qu'ils vont faire venir 400 Polonais et combler avec des Espagnols, on dit que le patron fait ce qu'il veut, en fait. Mon quotidien, c'est garder les enfants, du coup, en attendant la reprise du boulot. Là, je suis député. Moi, j'ai un loyer de 650 euros à payer tous les mois. Comment je fais ? En tant qu'intérimaire français, je trouve qu'on nous aide pas.
Cette nouvelle organisation chez PSA à l'échelle européenne inquiète les syndicats. Franck Théry, délégué CGT.
On voit bien qu'il y a une volonté de supprimer tous les contrats d'intérim et de faire en sorte que le travailleur de PSA devienne nomade de l'industrie automobile.
Les premiers travailleurs polonais arriveront mardi. Le DRH de PSA Ordin, Luc Samsoun, assume.
Beaucoup de sites industriels sont encore en sous-activité. Et donc nous avons beaucoup de salariés du groupe PSA en Europe qui sont encore en activité partielle. Donc la priorité, elle est de donner aux salariés du groupe, dans un esprit de solidarité, de l'activité.
Mais la solidarité ne vaut pas dans le bassin d'emploi.
Non, pas dans l'immédiat.
Inacceptable d'un point de vue politique et social pour Fabien Roussel, député communiste du Nord.
Dans notre région et dans ce Valenciennois en particulier, le taux de chômage est déjà de plus de 15%. C'est purement honteux. Et c'est pour ça que je viens d'interpeller le ministre Le Maire pour lui demander que toutes les aides publiques versées à PSA ou à verser soient stoppées immédiatement.
Le groupe PSA rappelle que ses salariés polonais seront payés au tarif français, comme le prévoit la réglementation.
Bien, et Agnès, ça tombe très très bien, puisqu'Agnès Pannier-Runacher est mon invité tout à l'heure à 8h35. Ne vous inquiétez pas, je l'interpellerai sur la question. Que dit PSA pour se défendre, Quentin Vinet ?
La direction assure qu'elle ne fait pas d'économie avec cette stratégie, mais qu'elle a une vision en fait globale de ses effectifs à l'échelle européenne. Voilà ce que dit PSA. Le groupe choisit de donner de l'activité à ses salariés en CDI, en expliquant que 80% des employés de son usine polonaise sont toujours au chômage partiel, parce que l'activité reprend, mais pas à la même vitesse partout en Europe. Il est aussi prévu de faire venir des salariés de Saragosse, en Espagne, comme ça a déjà été le cas dans le passé avec des salariés français déplacés de Poissy à Rennes ou de Mulhouse à Sochaux. Les employés polonais, précision, devraient être détachés 3 mois sous convention française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils seront payés au même salaire que leurs homologues français.
Des travailleurs étrangers plutôt que des intérimaires français.
Et si vous l'avez entendu, c'est ce que dénoncent les syndicats, des élus locaux également. On est conscient que PSA veut privilégier l'emploi de ses salariés, mais elle met sur le carreau des intérimaires, dit Force Ouvrière, à l'heure où justement l'intérim se porte mal. Sur les 500 intérimaires présents mi-mars sur le site de PSA, il n'en reste que 270 selon la direction. L'intérim qui s'est effondré de 40% au premier trimestre, selon les chiffres publiés hier par l'INSEE.
Et le président France et Europe du Nord, d'Adecco, sera mon invité tout à l'heure à 8h10. Je vais beaucoup lui parler des intérimaires. Vous avez beaucoup de réactions sur
Évidemment, alors des réactions...
Énormément. Il faut savoir que nous avons d'abord énormément d'auditeurs qui sont intérimaires, énormément de salariés en France qui sont intérimaires ou qui choisissent l'intérim. Parce que on est plus libre, parce que parfois on gagne mieux quand on est intérimaire que quand on est en CDI par exemple. Mais aujourd'hui, ce sont les premières victimes de la crise économique.
Et réactions et témoignages d'intérimaires qui disent que ça se passe chez PSA, mais ça se passe aussi visiblement dans l'aéronautique, nous dit Camille. Un autre auditeur qui veut rester anonyme qui nous dit c'est la même chose à La Poste, enquêté, nous dit cet auditeur. Et puis la réaction de Sylvain qui dit attendez, ça m'écœure d'avoir PSA qui arrive comme ça à faire la bouche en cœur ce qu'il veut à l'heure où on promet des milliards d'euros d'aide au secteur automobile.
Bien, il est 6h14. Là encore, c'est une question que je poserai. 6h14, notre jeu, c'est le dernier jour. Alors profitez-en. Pour gagner quoi? Vous le savez, 500 euros tous les mois pendant un an, ça fait combien? Ça fait 6000 euros, c'est un beau cadeau que je vous fais. Pour cela, vous répondez tous les jours à une question et tirage au sort tout à l'heure. Mais oui, c'est le dernier jour.
C'est aujourd'hui ou jamais, quoi.
Oui, c'est aujourd'hui ou jamais. Tirage au sort tout à l'heure, entre 8h et 8h30, nous aurons la gagnante ou le gagnant. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Aujourd'hui, dernière question. Donc, écoutez bien, écoutez bien. Les prénoms des membres de mon équipe sont 1. Mathieu, Anaïs, Marie, Charles, Quentin, Géraldine. 2. Mario, Allison, Megan, Sean, Quincy.
Quincy.
Quincy, pardon.
C'est moi ça.
Oui. Ou Germaine. Non, mais je.
Germaine de la météo. Question.
Vous avez la bonne réponse.
Jean-Jacques,
vous
envoyez bac en anglais. Hein.
Oui, vous envoyez. Oui, je suis très fort en anglais. Quincy, vous envoyez un pour Mathieu, Anaïs, Marie-Charles, Quentin, Géraldine et deux pour Mario, Allison, Megan, Sean, Quincy et Germaine par SMS. Au 7-32-16. Le gagnant avec moi tout à l'heure à 8h20. Allez-y, vous y allez, vous jouez, évidemment, vous participez. Bien, dans un instant, nous allons revenir sur les restaurants d'Île-de-France et restaurateurs qui veulent absolument maintenant une ouverture générale. Et quelque chose me dit qu'ils vont obtenir satisfaction, peut-être aujourd'hui, peut-être dans le week-end, en tout cas avant dimanche soir. J'en suis pratiquement persuadé. Dans un instant, nous serons avec Didier Désert, qui est maître restaurateur, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne à Paris, porte-parole de tous ces restaurateurs si impatients, surtout ceux qui n'ont pas de terrasse. Il est 6h16, à tout de suite.
RMC 6h-9h,
Bourdin Direct.
Didier Désert est avec nous, maître restaurateur, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne à Paris. Didier Désert, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous, Didier Désert. Vous avez rouvert votre terrasse.
Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une terrasse, même de pouvoir étendre ma terrasse. Donc dès le 2 au soir, on a pu ouvrir. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de beaucoup de mes confrères. Mmh. Plus de la moitié des restaurants en Île-de-France n'ont pas pu ouvrir, n'ont pas la capacité d'ouvrir. Et puis on a eu la chance d'avoir une très belle première soirée. C'était merveilleux, les gens étaient heureux de revenir.
Il y avait du monde et
on
tout.
On a vu beaucoup de monde, beaucoup d'amis, beaucoup de fidèles du restaurant. Et puis à partir du deuxième jour, les orages. Et donc finalement, cet espoir qui renaissait s'est éteint aussi vite que les trombes d'eau qui tombaient sur nos têtes. Voilà.
Donc vous êtes à 10-15% de votre chiffre d'affaires habituel.
À peine.
Il faut absolument que vous puissiez ouvrir les salles. Et je pense aussi, nous pensons aussi, Didier Désert, à tous les restaurateurs en Île-de-France, en zone donc non verte, en zone orange, à tous les restaurateurs qui n'ont pas de terrasse. Et qui ne peuvent pas ouvrir.
C'est évidemment plus important encore pour eux, qui sont totalement empêchés de travailler. Et puis pour tous ceux qui ont cette terrasse, les conditions climatiques n'ont pas permis d'exploiter sereinement. Les gens veulent manger en terrasse ou pas, il fait pas beau. Donc on a évidemment besoin d'ouvrir très très vite, parce qu'on ne comprend plus. D'ailleurs, on n'a jamais discuté les décisions sanitaires, c'est pas notre métier.
Oui.
Mais là, on ne comprend plus quand on voit les Parisiens circuler, les Parisiens s'agglutiner dans les transports, dans les magasins. On ne comprend plus que...
Dans des rassemblements, dans des manifestations... Et
que nous soyons les seuls avec les cinémas.
C'est-à-dire qu'on peut se rassembler, on peut manifester à des dizaines de milliers, mais on ne peut pas aller au restaurant.
À plus
franchement, vous allez m'expliquer, il va falloir que les autorités... Tout à l'heure, j'ai Agnès Pannier-Runacher, je vais lui poser la question. Il faut qu'elle explique ça.
Il y a urgence à ce qu'on soit traité comme tout le monde et que surtout les Français puissent retrouver le plaisir, le bonheur de retrouver leur restaurant.
Mais bien sûr. Alors en province, comment ça se passe? En province, on est ouvert. Est-ce que la province a retrouvé, Quentin Vinet, vous avez quelques chiffres?
J'ai la
Est-ce
presse.
Que la province a retrouvé sa clientèle habituelle?
Non, la réponse est non. J'ai la presse quotidienne là sous les yeux. Les clients se font rares. La reprise est catastrophique. C'est ce que dit une restauratrice de Mayenne. Calme inquiétant dans les restaurants de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. On se croirait en hiver. On tourne à 7 repas au déjeuner alors qu'avant le confinement, c'était une cinquantaine, ça c'est ce que dit un gérant du Finistère.
Oui, c'est la réalité partout. On a évidemment des contacts avec tous nos collègues. La reprise est très très lente, très difficile. Et à Paris, c'est encore plus difficile puisque nous n'avons que les terrasses.
Mais que se passe-t-il? Pourquoi, selon vous?
Alors, je pense qu'il y a...
Vous pensez qu'il y a une partie de la clientèle qui a peur?
Je pense qu'il y a une partie de la clientèle qui a toujours peur. On a tellement dramatisé cette épidémie, et peut-être à raison, à un moment donné.
Oui.
Aujourd'hui, il faut aussi apprendre à dédramatiser. Donc, une partie des gens ont peur. D'autres personnes n'ont pas retrouvé ce plaisir d'aller au restaurant. Il faut que le mouvement reprenne. On l'a vu aussi dans les commerces, il y a eu un afflux les premiers jours, et puis ça s'est très vite tari, et on vit exactement le même phénomène dans la restauration.
Oui, alors dites-nous, 32-16, est-ce que vous êtes retourné au restaurant? Vous avez envie d'y retourner? Vous avez peur d'y retourner? Allez-y, 32-16, rmc.fr.
Alors que toutes les conditions sanitaires sont respectées, nous sommes professionnels du sanitaire dans nos cuisines, évidemment, et on sait l'appliquer aussi dans la salle quand il s'agit d'accueillir.
Oui, et puis... Quand on n'a qu'une terrasse, eh bien, il y a l'éternel conflit entre les fumeurs et les non-fumeurs.
C'est aussi un motif d'insatisfaction pour certains non-fumeurs qui se trouvent imposés à dîner ou à déjeuner en terrasse. Donc, ça peut toucher quelques personnes. La météo, évidemment, ne nous a pas rangés. Et puis, voilà, je crois que c'est retrouver une habitude qui était une belle habitude des Français, se faire plaisir.
Dans tous les cas, il y a urgence, Didier Désert.
Il y a urgence, à l'évidence, d'ouvrir. Et là, on appelle au gouvernement pour qu'il prenne une sage décision le plus vite possible. Et puis, on appelle nos clients à venir nous retrouver.
Bien, j'espère que le gouvernement Agnès Pannier-Runacher va répondre à mes questions. Je serai insistant sur le sujet. J'espère qu'elle va lâcher le morceau, comme on dit. Bien, il est quelle heure? 6h24, très vite. Merci Didier Désert. Sylvain est avec nous, routier PSA, Montélimar dans la Drôme. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Ça va Sylvain, auditeur fidèle, le matin?
Oui, je vous écoute tous les jours.
Bon, alors, vous vouliez revenir sur ce qui se passe à PSA, chez PSA dans le Nord?
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, moi je trouve assez scandaleux qu'on fasse appel à de la manœuvre étrangère alors qu'on annonce des milliards d'aides pour les entreprises là, de l'automobile, et qu'on mette les intérims comme ça sur le carreau, quoi.
Oui, c'est une bonne remarque, une bonne question. Alors, on a donné les explications de la direction qui européanise, si j'ai bien compris, le travail dans le groupe PSA, puisque PSA est installé dans plusieurs pays d'Europe. Eh bien, Sylvain, merci dans tous les cas.
Oui, et puis je voulais juste dire que j'ai peur que ce soit une porte ouverte au reste des grosses entreprises.
Écoutez, on va voir.
Il y a un effet domino.
On va voir ce que dit l'État. Puisque l'État sera là tout à l'heure avec Agnès Pannier-Runacher. On va voir ce que nous répond la secrétaire d'État à l'économie. Merci beaucoup, Sylvain, et passez une belle journée. Il est 6h25. Tous les matins, trois histoires et trois images avec Charles Magnin. Charles, aux États-Unis, la lutte contre le racisme donne parfois lieu à des situations un peu ubuesques. À UCLA, l'Université de Californie, un professeur a été suspendu après avoir refusé de donner de meilleures notes aux étudiants noirs.
Il s'appelle Gordon Klein, prof de comptabilité. Il y a quelques jours, il reçoit un email signé d'un groupe d'étudiants qui lui demande de favoriser les étudiants noirs, de surnoter les étudiants noirs compte tenu des récents événements. Demande incompréhensible pour le professeur qui leur répond par mail. Il leur explique qu'il est difficile à distance de savoir si une copie a été rédigée par un noir ou un blanc. Que dois-je faire pour les étudiants métis? Être à moitié clément? Demande ironiquement le professeur, qui conclut en citant Martin Luther King qui demandait justement qu'on ne juge pas les gens selon leur couleur de peau. Et bien cette réponse du professeur a provoqué un véritable tollé sur le campus. Une pétition a récolté 20 000 signatures. Le professeur a fini par être suspendu jusqu'au 25 juin prochain. Le temps de statuer définitivement sur son sort.
Oui, non, c'est pas possible. Mais Martin Luther King, il est bien, bien oublié là.
Exactement.
Dans tout ce qui se passe.
Et c'est pas le seul cas dans les universités américaines.
Aux États-Unis, toujours en période de crise, beaucoup cherchent des réponses chez les astrologues.
Eh oui, les Américains sont toujours, on va le rappeler, en pleine crise sanitaire. 1000 décès ces dernières 24 heures, sans oublier la crise économique. Alors, face à l'incertitude, beaucoup s'en remettent aux astres. Tous les sites qui proposent des consultations d'astrologie ou de voyance à distance voient leurs audiences exploser. Un Américain sur trois pense que les mouvements des planètes ont des incidences directes sur leur vie. Le marché pèse plus de 2 milliards de dollars. Problème ? Aucun astrologue n'avait prévu le coronavirus ou la pandémie dans ses prévisions pour 2020. Par exemple, la célèbre Elisabeth Tessier reconnaît qu'elle avait annoncé pour cette année un conflit militaire, un accident nucléaire, une éruption volcanique, mais pas de pandémie.
Pas de pandémie, non, pas de conflit militaire, pas d'accident nucléaire.
L'année n'est pas finie.
Et pas d'éruption volcanique,
non, pas
pour
encore,
l'instant.
Pas
bon,
encore,
bon, d'accord.
Pour l'instant.
Bon. À lire dans Ouest France le témoignage de Laurent, qui a peur de sortir chez lui à cause d'un couple de goélands.
Oui, Laurent, on les entend, habite le port de pêche de Lorient et depuis 3 jours, un couple de goélands argentés a élu domicile sur un toit juste en face de sa porte. 3 petits oisillons viennent de naître, évidemment protégés par leurs parents. Résultat, explique Laurent, dès qu'il sort de chez lui, les oiseaux lui foncent dessus comme des avions de chasse, dit-il. C'est encore pire quand il sort son chien, qu'il a dû équiper d'un casque pour le protéger. Bon, selon les spécialistes, Laurent et son chien ne risque rien. Les goélands se contentent d'intimider, de dissuader, mais ne lui feront jamais de mal. Au pire, il risque un lâcher de fiente, explique le spécialiste dans West France. Dans quelques semaines, les oisillons auront grandi. Toute la famille pourra repartir. Et d'ici là, le spécialiste conseille à Laurent d'essayer de se faire bien voir de ses voisins temporaires en leur lançant, par exemple, une sardine de temps en temps, dit le spécialiste.
Voilà, et puis je voudrais souhaiter bon vol à mon copain, le pigeon voyageur, Félix, qui était venu s'installer chez moi dans les Cévennes, et puis qui est reparti, il a repris.
Ah,
mais il a repris son vol, il est resté quelques jours, il a été bien nourri, il a bien bu. On l'a surnommé Félix, et il est reparti. Peut-être reviendra-t-il nous dire un petit bonjour.
Il nous écoute peut-être ce matin.
Il nous écoute peut-être ce matin, et je ne sais où. Quelque part. Attention,
en tout cas,
Félix,
c'est un auditeur.
Attention
fidèle.
Aux oiseaux de proie qui rôdent ici ou là, Félix. Il est 6h29, vous êtes sur RMC. Merci, la machine à café 3216, la touche 5, et Quentin.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
Et Mathieu.
À suivre dans Bourdin Direct. Le retour de la fête. Depuis le déconfinement, fête parfois beaucoup trop alcoolisée. Les comas éthyliques sont en forte hausse chez les jeunes depuis le 11 mai. Alerte du patron du SAMU de Haute-Garonne, Vincent Bounès, avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Allez, il est 6h31, je ne comprends pas très bien. Là, on a des billboards, vous n'avez rien compris non plus. Mais ça, c'est l'imagination qui est au pouvoir. Il est 6h31, Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'euphorie du déconfinement inquiète le SAMU à Toulouse. Consommation d'alcool en nette hausse chez les jeunes. Entre 15 et 20 cas de coma éthylique grave sont enregistrés chaque nuit. De la pluie, du vent, la météo désespère. Les restaurateurs franciliens qui n'ont que leur terrasse. Ils veulent rouvrir aussi leur salle avant le 22 juin. Un conseil de défense sur le déconfinement a lieu ce matin à l'Élysée. Et puis, Castaner, démission, le cri des policiers dans les rues de France. Rassemblement en fin de journée à Toulouse, Lille, Marseille, Nice. Les propos du ministre de l'Intérieur ne passent toujours pas. RMC 6h31. Le SAMU est très inquiet. Entre 15 et 20 jeunes sont hospitalisés pour coma éthylique grave chaque nuit à Toulouse. Le scénario se répète depuis la réouverture des bars il y a plus de 2 semaines. L'alcool se consomme sans modération. Effet déconfinement, besoin de relâcher après avoir été enfermé. D'autant que l'année scolaire est terminée. Jean-Wilfried Forquès.
Félix est étudiant dans une école de commerce. Les études, c'est fini. Alors les soirées, il les passe dans les bars ou chez lui à boire avec ses amis.
On commence à boire et puis si on se sent bien dans la soirée, on boit et quand on voit qu'on n'en peut plus, on arrête. Ça dépend des soirées, ça dépend de avec qui on est. C'est compliqué de se fixer les limites parce que l'alcool, on n'a pas bu pendant 2 mois, donc on ne le tient pas forcément autant qu'avant. Ça peut arriver qu'on se fasse surprendre étant donné qu'on n'a plus l'habitude de boire.
Se faire surprendre et finir aux urgences, cela peut toucher aussi des ados. D'où cette mise en garde du docteur Philippe Frontin, directeur adjoint du SAMU à Toulouse.
C'est un cri d'alarme parce que pour l'instant, on arrive à contenir cette vague. On ne parle pas d'épidémie, évidemment, mais on contient cette vague parce qu'on a potentiellement les équipes pour y aller, pour les prendre en charge de façon correcte. Mais c'est juste un cri d'alarme. Il y aura forcément de ces quatre un drame chez quelqu'un de jeune et qu'on trouvera décédé.
Jusqu'à présent, les soirées arrosées concernaient les jeunes le week-end seulement. Mais depuis la fin du confinement, le SAMU enregistre 4 à 5 cas en moyenne chaque soir.
Et Vincent Boone, chef de service du SAMU de Haute-Garonne, et votre invité Jean-Jacques, juste après ce journal sur RMC. Autre conséquence du déconfinement, les Français ont beaucoup de mal à se projeter sur les vacances d'été, à tel point que la SNCF supprime des trains. Pas assez de réservations pour le mois de juillet, il y en a 2 fois moins que l'an dernier à la même époque. Pas question de faire rouler des trains à moitié vides pour la compagnie. À Paris, pour RMC, Mao Becker-Granier.
Dominique n'est pas certaine de partir en vacances cet été, mais une chose est sûre.
Si je pars, j'éviterai le train au maximum. Pour des raisons sanitaires, plus on est loin des gens, mieux on se porte. On n'a pas peur. Maintenant, c'est pas forcément intelligent de faire quelque chose qu'on peut éviter.
Tamara, ses trois frères et sœurs et ses parents iront, eux, prendre l'air en Bretagne au mois de juillet, mais ils ne savent pas encore comment ils voyageront.
Pour l'instant, on ne sait pas trop si on y va en voiture ou en train, parce que on n'arrive pas trop à se projeter. On pense qu'on va plus prendre quelque chose de dernière minute et donc on verra plus sur le coup. On sait très bien que maintenant tout peut être annulé du jour au lendemain.
De nombreux Français sont dans l'incertitude et hésitent à réserver leurs billets. Conséquence de la crise sanitaire, explique Josette Sixic, spécialiste des vacances.
Je crois que comme de toute façon on est dans l'expectative, on est dans l'attente, on regarde ce qui se passe, on n'est pas encore sûr du tout de ce qu'on va faire. Être sûr qu'on ne va pas être viré de son boulot, ça montre à quel point on est très timide encore de partir.
Pour l'instant, le taux d'occupation des trains en août n'est que de 6%, mais la SNCF compte sur de nombreuses réservations de dernière minute.
Dans les restaurants d'Île-de-France, on commence à s'impatienter. Les terrasses, c'est bien, mais c'est loin d'être rentable. Surtout avec la pluie, les professionnels demandent de pouvoir rouvrir leurs salles avant le 22 juin, comme en zone verte, même si ça n'est pas simple, là non plus, avec le protocole sanitaire. Le reportage de Florence Donjon à Lyon.
Dans ce restaurant, le gel hydroalcoolique est en bonne place et un panneau indique le port du masque obligatoire à l'intérieur. Mais dans les faits, les clients sont peu nombreux à le porter. Marc avoue à demi-mot faire moins attention.
J'aime pas les endroits où il y a trop de restrictions. Dans les bars ou les restaurants, porter le masque pour se déplacer, je trouve pas toujours ça nécessaire.
Bonjour. Philippe Langlois, le propriétaire, applique les consignes mais constate que ses clients ont besoin de revivre normalement. Il plaide lui aussi pour plus de liberté.
Ça crée des freins quand même dans notre mode de travail et ça nous complique la vie quand même, c'est très compliqué. Sachant que la restauration est un métier très sensible sur l'hygiène, on est déjà formaté, ce ne sont pas nos métiers qui sont plus à craindre.
Pour le docteur Garrigou Grandchamp, ces moments de convivialité sont importants et il estime que les risques de contamination sont minimes.
Je pense qu'on peut effectivement assouplir le déconfinement avec des clients, notamment dans les restaurants, qui soient un peu plus disciplinés et qui acceptent de porter leur masque quand ils se déplacent.
La préfecture du Rhône rappelle qu'elle effectue des contrôles et qu'en cas de non-respect des règles sanitaires, les établissements seront sanctionnés.
Emmanuel Macron doit faire un point sur la situation sanitaire avec le Conseil scientifique ce matin. Il y aura dans la foulée un Conseil de défense à l'Élysée. Selon le dernier bilan, 27 personnes de plus sont mortes du coronavirus en 24 heures en France. Mais les cas de Covid en réanimation baissent encore. La Commission européenne recommande d'ailleurs de rouvrir rapidement les frontières intérieures, de lever toutes les restrictions de voyage dans l'Union européenne. Les enjeux sont colossaux, notamment économiques. On pense bien sûr au tourisme. Parmi les pays visés par cet appel, la France, comme l'Espagne ou le Danemark, Benoît Ballet.
Oui, nous appelons tous les États membres à lever toutes les restrictions aux frontières intérieures. Lundi 15 juin, déclaration hier de la commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne. Car tous les pays de l'Union n'ont à ce jour pas le même calendrier. Le Danemark, par exemple, envisage de ne rouvrir ses frontières le 15 juin qu'aux Allemands, Norvégiens et Islandais. L'Espagne et le Portugal, eux, évoquent une levée des restrictions de circulation le 1er juillet. Et par réciprocité, la France, elle ne prévoit de rouvrir ses frontières avec l'Espagne que le 21 juin. Bruxelles pousse pour retrouver la libre circulation en Europe telle qu'elle était avant la pandémie, puisque la situation épidémiologique s'améliore rapidement dans tous les États membres et converge, nous disent les experts européens. Mais il faudra attendre pour des déplacements en dehors de l'Union. Selon la Commission européenne, il n'est pas encore possible de procéder à une levée générale de l'interdiction des voyages non essentiels vers l'Union européenne.
Benoît Ballet, merci. Christophe Castaner s'interroge. Comment regagner la confiance des policiers? Ils sont très en colère et les réunions avec les syndicats n'y changent rien pour le moment. Hier, en fin de journée, des rassemblements ont eu lieu à Marseille, Nice, Bobigny, Lille. Les policiers ont symboliquement jeté à terre leurs menottes. Parmi les sujets de tension, l'interdiction de la clé d'étranglement. C'est ce qui a poussé Johan, sous-brigadier, à se mobiliser à Toulouse.
J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire dans le futur mon travail correctement. On m'interdit de tout. Je représente l'État, je suis assermenté, je suis là pour aider les concitoyens. Et plus ça va, moins je vais avoir pouvoir le droit d'exercer mon métier correctement. On sort quand même de 2-3 années dures entre des manifestations, entre des attentats, entre tout ce qui vient de se passer. Et puis dès que ça se calme un peu, hop, bim, à nouveau la cible, la police. Non, non.
Les courses, Mathieu, c'est à Rouen-Mocanchy.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 11, Dollar Sawyer. Outsider numéro 12, Carioca de Lou, le 11 et le 12. Et puis,
oui,
et vous puis permettez, j'ai un message de la part d'Ousseinou pour Anne-Sophie Balbir.
Ah bon?
Joyeux anniversaire, Anne-Sophie
Balbir.
Non,
c'est votre anniversaire.
Oui.
Ah, bah, bel anniversaire.
Merci beaucoup.
Ah, d'accord.
Merci. Anne-Sophie qui nous a fait tout le programme, la fête demain, dans le respect des règles sanitaires. Enfin,
ah bon? Bon, voilà. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Bon.
Un bon week-end, ce qui s'annonce.
Oui, je pense. J'espère.
Il est 6h39. Parlons de la pandémie. Où est-ce qu'on en est? De cette pandémie. Elle s'améliore. La situation s'améliore en Europe. Oui, mais la pandémie est toujours là. Même si, en Europe, le virus circule toujours. Je le rappelle. La pandémie, et notamment en Meuse et Meurthe-et-Moselle, hein, vous avez vu les chiffres. La pandémie s'accélère en Afrique et continue de faire des ravages en Amérique latine, Quentin Vinet.
1,5 million de malades, effectivement, en Amérique latine. Et le bilan dépasse ce matin les 40 000 morts rien qu'au Brésil. C'est 10% des victimes au niveau mondial. Le Brésil est sur le point de devenir le deuxième pays le plus touché de la planète. Les centres commerciaux viennent pourtant de rouvrir dans les deux grandes villes, Rio, Sao Paulo. On recense pourtant 10 000 décès rien qu'à Sao Paulo, c'est la capitale économique du Brésil. Alors effectivement, ça va mieux en Amérique du Nord, mais on recense toujours 20 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis. Ça va beaucoup mieux en Europe où tous les indicateurs sont en train de repasser au vert. Par contre, la pandémie s'accélère en Afrique. Le continent reste peu touché, c'est vrai, par rapport au reste du monde, mais il vient de franchir la barre des 200 000 contaminations. Il a fallu une centaine de jours pour atteindre la barre des 100 000 et seulement 18 jours pour franchir les 200 000, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé.
Bien, merci. Magali est avec nous. Bonjour Magali.
Bonjour, vous allez bien?
Bah, oui, très bien Magali. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio le matin?
Je regarde la télé.
Vous regardez la télé Magali le matin. Vous êtes agent de voyage et vous êtes partie en week-end à Cancale. Vous êtes allée au restaurant Magali?
Oui, je suis allée dans une crêperie pour l'anniversaire de ma fille.
Dans une crêperie, et alors? Comment ça s'est passé? Bien, il y avait du monde?
Non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait deux tables.
Eh oui, deux tables seulement. Vous avez discuté un peu avec le restaurateur?
Oui, on a discuté avec les restauratrices donc, qui partent à la retraite l'année prochaine. Elles m'ont dit qu'elles avaient perdu 40 000 euros ouais, durant le
confinement. Oula. Magali, à Paris, vous attendez aussi l'ouverture des restaurants?
Alors oui, j'attends, mais j'ai un peu plus d'appréhension d'aller dans les restaurants, par contre, à Paris.
Oui. À Paris. Ouais. Oui, vous faites partie de celles et ceux très nombreux, vraiment très nombreux, qui ont peur d'aller au restaurant. Magali, vous avez peur que les gestes barrières ne soient pas respectés et vous avez peur de la proximité avec d'autres clients.
Exactement. Et quand je vois déjà sur les terrasses, là, je suis dans le 17e à Paris, ouais. Les gestes barrières déjà ne sont pas respectés. Il y a des grandes tablées. Je me dis quand ça va réouvrir, qu'est-ce que ça va donner, quoi.
Oui. Donc vous allez hésiter à aller au restaurant. Vous n'êtes Exactement. Pas allé au bar encore, vous n'êtes pas allé, non?
Non.
Non, pas du tout.
Non.
Bon, bah merci Magali.
Et je vous en prie.
Et passez une belle journée. À bientôt. Au revoir. 6h42, vous entendez? Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont comme Magali, qui hésite avant d'aller au restaurant. Nous allons parler d'autre chose. Quoique, je poserai aussi une question sur le Covid ou la Covid-19 au professeur Vincent Boone, qui est chef de service du SAMU de Haute-Garonne au CHU Purpan de Toulouse. Avec lui, il est notre invité dans deux minutes. Je vais vous parler des comas éthyliques chez les jeunes. Le patron du SAMU de Haute-Garonne, c'est lui. Alerte sur la forte hausse des comas éthyliques chez les jeunes depuis le déconfinement. Nous parlerons de tout cela avec le professeur Vincent Boone dans deux minutes, 6h42.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Boone en direct.
Professeur Vincent Boone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service du SAMU de Haute-Garonne au CHU Purpan de Toulouse. Professeur Boone, d'abord, quelques mots sur la Covid-19 ou le coronavirus. Vous avez de nouveaux cas encore?
Alors nous, enfin surtout nous, on en a très peu, effectivement. On a été relativement épargnés en Occitanie hein, par le virus.
Oui, c'est vrai.
Là, on est sur une phase clairement décroissante, avec beaucoup moins de nouveaux cas, très peu de cas graves. Je pense que la population a compris, c'est une bonne chose. Je pense que les gestes barrières sont bien appliqués pour l'instant. Et clairement, dans cette optique-là, nous, on est excessivement satisfaits de ne pas recevoir des patients graves tous les jours.
J'imagine. En revanche, vous alertez, vous intervenez toutes les nuits à Toulouse. Et c'est vrai à Toulouse, mais c'est vrai dans d'autres villes de France. Nous l'avons constaté et nous avons reçu des messages. Vous intervenez toutes les nuits à Toulouse pour des cas de coma profond chez des jeunes très alcoolisés. Des jeunes qui entre quoi ? 15, 16, ça commence à 15, 16 ans ?
Oui, c'est ça, on va dire. C'est vraiment des très jeunes hommes et femmes. Hein. Ils ont entre 15 ans jusqu'à 21, 22 ans, quoi, on va dire. La moyenne est à 17, 18 ans.
Depuis la réouverture des bars ?
Alors oui, je pense pas que ça va être forcément lié aux bars, mais en tout cas, depuis le déconfinement, il y a beaucoup, beaucoup, effectivement, de jeunes qui rattrapent le temps, on va dire, et qui se mettent à boire des quantités invraisemblables d'alcool, avec des conséquences graves hein, pour leur santé.
Oui, coma éthylique ?
Oui, alors il y a des comas éthyliques, évidemment, on va dire il y a plusieurs conséquences hein, l'alcoolisation massive. La première, c'est celle-là, c'est le coma éthylique avec le risque, ce qu'on appelle d'inhalation, en termes un peu moins poétiques, vous avez du vomi, vous vomissez, et ce vomi vient dans vos poumons ou vient obstruer vos voies aériennes.
Vous risquez d'en mourir.
Oui.
Heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais on risque d'en mourir.
Alors oui, sur cette phase-là, il n'y a pas eu d'essai. Moi, j'ai vu effectivement des morts, malheureusement, sur des jeunes qui auraient jamais dû en mourir. C'est assez exceptionnel, mais ça arrive, malheureusement. Et ça n'est qu'une des conséquences de l'alcool, évidemment. Après, vous avez aussi les conséquences sur tout ce qui est traumatologie, hein, traumatologie routière, l'agressivité, les rixes, et puis les agressions, et également les agressions sexuelles, qui sont aussi en augmentation.
Et évidemment, malheureusement, il y a des jeunes comme ça qui doivent être intubés et qui doivent être admis dans des services de réanimation parce qu'ils sont en danger de mort.
Absolument. Alors, je crois que c'est aussi un des messages à faire passer aux jeunes. C'est absolument pas beau du tout. Coma éthylique, il y a aucune poésie. Hein. Vous vous retrouvez en réanimation avec des tuyaux partout, en assistance respiratoire et avec des pneumopathies la plupart du temps, c'est-à-dire en gros des lésions pulmonaires qui vont nécessiter parfois plusieurs jours de ventilation artificielle. Oui.
Alcool fort à chaque fois, avec parfois cannabis associé.
Alors c'est ça. Dans mon classement personnel, c'est vodka et whisky qui arrivent en tête, hein, c'est un alcool fort, sur des prises assez resserrées dans le temps et très importantes en quantité. Et puis parfois quelques expérimentations de cannabis à cet âge-là. Un peu plus tard, on a. Alors, je pense que c'est aussi parce qu'on connaît pas bien son corps hein, quand on est très jeune, un adolescent comme ça, et qu'on connaît pas ses limites. On n'a pas ce sentiment un peu plus raisonnable qui vient avec l'âge. Un petit peu plus tard, à l'âge de 24-25 ans, on a aussi des jeunes qui essayent des drogues de synthèse, de GHB, GBL, avec globalement les mêmes conséquences. Hein. C'est tout aussi dangereux, faut bien se dire ça.
Vous dites, nous avons certaines nuits une quinzaine de jeunes hospitalisés, dont 2 à 3 en réanimation, intubés, placés. C'est en coma.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est fou et c'est vrai à Toulouse, mais c'est vrai dans les environs de Toulouse aussi.
Alors oui, il y a de l'alcoolisation, ce que j'appelle l'alcoolisation des champs. Hein. L'idée, c'est d'avoir une maison de campagne ou une résidence secondaire. Il y en a hein, dans la campagne, pas loin de Toulouse, que les parents prêtent, et puis dans lequel on regroupe 20, 30, 40 jeunes parfois, qui vont faire de l'alcoolisation. Donc oui, il y a vraiment, en gros, pour nous, c'est samedi tous les soirs, quoi, actuellement. Voilà.
Oui, mais c'est exceptionnel, franchement, professeur Boone.
Alors, faut bien se dire qu'on est malheureusement habitué à des phénomènes comme ça, mais qui sont d'habitude hebdomadaires.
Oui.
C'est-à-dire que le vendredi ou le samedi soir, on a entre 10 et 20 jeunes qui sont hospitalisés pour des troubles liés à l'alcool au sens large. Là, ce qui est un peu exceptionnel, c'est que c'est un peu tous les jours, depuis il y a une douzaine de jours. Dès le déconfinement, ça a été une nuit absolument abominable en termes d'activité. Et depuis, on a quand même des taux élevés d'hospitalisation pour tout ce qui est, au sens large, troubles liés à l'alcool. Donc, c'est pas exceptionnel dans son, malheureusement, dans sa survenue, mais ce qui est vraiment assez, un petit peu alarmant, je trouve, c'est la répétition quotidienne de ces événements, quoi.
Eh bien, merci de nous alerter. Bertet, hein, professeur chef oui. du service du SAMU de Haute-Garonne, au CHU Purpan de Toulouse. Merci beaucoup. Il est 6h51 et si vous voulez réagir, si vous voulez témoigner, ici, vous le savez, le 32-16, c'est notre lien. Nous sommes ensemble. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous tous les matins. C'est la force de cette matinée des RMC. Mathieu.
À suivre, on a beaucoup parlé du racisme dans la police, du racisme dans notre histoire, parfois du racisme dans notre culture. Les nouvelles technologies aussi peuvent être racistes. La reconnaissance faciale accusée de racisme. Mais oui, non. Anthony Morel va tout nous expliquer. C'est déjà demain dans un instant sur RMC.
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 C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Alors, écoutez bien parce que maintenant on est devenu, on tombe dans l'absurde. La reconnaissance faciale accusée de racisme.
Ben oui.
Aux États-Unis, sous la pression des manifestations qui se tiennent en ce moment, de grands groupes technologiques ont annoncé qu'ils allaient arrêter de fournir à la police des outils de reconnaissance faciale accusés de cibler les personnes noires de manière disproportionnée.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a la toute puissante Silicon Valley là, qui cède face aux pressions de Black Lives Matter notamment. On a eu coup sur coup IBM qui dit « Moi, j'arrête de travailler sur la reconnaissance faciale parce qu'il y a des dérives en termes de surveillance de masse, en termes de profilage racial, donc on arrête. » Amazon qui dit « Moi, pendant un an, je vais arrêter de fournir mes outils de reconnaissance faciale à la police, un peu pour les mêmes raisons. Ils ont un logiciel qui s'appelle Recognition, qui est utilisé par la police aujourd'hui et qui sert à identifier des suspects. En gros, on arrête une personne, on la prend en photo, on va comparer la photo à une base de délinquants connus et on va identifier le délinquant. Le problème, c'est que ces logiciels, ils sont accusés par un certain nombre d'associations, alors il y a des études qui ont travaillé sur le sujet, de racisme, de biais raciaux, c'est-à-dire que les logiciels de reconnaissance faciale se trompent beaucoup plus lorsqu'on leur montre un visage noir ou asiatique par rapport à un visage blanc. Il y a 10 à 100 fois plus d'erreurs, ce qui entraîne des arrestations abusives. Et donc, toutes les associations dont on entend beaucoup parler en ce moment de défense des droits, eh bien, disent il faut arrêter absolument la reconnaissance faciale. Donc voilà.
Oui, il y a quand même une bonne part d'opportunisme de la part de ces entreprises qui ne veulent pas se mettre à dos le mouvement Black Lives Matter.
C'est exactement ça. On est dans ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent le virtue signaling. Le fait qu'il faut, il faut montrer sa signaling. Vertu. Il faut montrer sa vertu. Il faut montrer qu'on est moral. Il faut montrer qu'on est dans le camp des gentils. Voilà. Et surtout dans la Silicon Valley.
Dans mes Cévennes. Ouais. On n'a pas ces problèmes-là.
Ah bah vous savez, dans la Silicon Valley, en plus, ils sont très très progressistes. Donc il y a une pression en interne des salariés chez Amazon, par exemple, pour arrêter de travailler sur ces outils-là.
C'est pas le Vegan Valley.
La Vegan Valley. Mais attendez,
le Vegan Valley dans les Cévennes.
Il y a beaucoup de
loin de tout ça.
Il y a beaucoup d'entreprises innovantes, on en a parlé.
Il y a beaucoup d'entreprises innovantes, mais enfin...
Mais on est peut-être pas dans l'esprit Silicon Valley.
Non, franchement, non.
Non, mais c'est ça. Et donc, du coup, la reconnaissance faciale, c'est devenu le grand méchant loup, etc. Faut rappeler, comme je dis à chaque fois, c'est la théorie du couteau aztèque, comme je dis.
La théorie du couteau aztèque.
Oui, c'est qu'une technologie n'est jamais bonne ou mauvaise en soi. Un couteau aztèque, vous pouvez vous en servir pour découper votre steak ou pour aller découper votre voisin. C'est pas pour ça qu'il est mauvais. Et ben, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, c'est pareil. On peut s'en servir pour faire du profilage racial. On peut aussi s'en servir pour retrouver les personnes.
C'est comme le platane au bord des routes, quoi. C'est pas lui qui est responsable des morts.
C'est exactement ça. Mais il faut quand même toujours garder ça à l'esprit. La technologie, elle est pas mauvaise en soi. Voilà, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être mauvais.
Ben, on est d'accord. Merci, mon cher Anthony. Bravo. Merci, Anthony. Lydia est avec
nous. Bonjour.
Bonjour, Lydia. Ça va?
Oui, ce matin. Ça va.
Vous êtes à la radio ou à la télé, Lydia?
À la radio.
À la radio le matin, Lydia.
Oui.
Fidèle. Est-ce que vous êtes une fidèle?
Oui, dites-moi, tout à fait.
C'est vrai?
Oui, depuis le confinement, je vous écoute tout le temps, je change même pas de station.
Vous avez découvert RMC grâce au confinement ?
Oui.
Alors, vous savez que vous êtes très nombreux et nombreuses dans ce cas. Depuis le confinement, on a découvert RMC. Il faut dire que nous avons été là tout au long de ce confinement. Lydia, je suis très content de vous savoir là. Vous ne changez plus. Vous avez raison, ne changez plus. Profitez-en. Hein. Lydia, vous avez gagné votre machine à café, les capsules qui vont avec.
Merci.
Merci ma chère Lydia. Je vous embrasse, Lydia.
Moi aussi, j'embrasse toute l'équipe.
L'équipe est là pour vous. Il est 6h59. Merci.